J'aimerais ce matin ouvrir la Bible avec vous dans l'évangile de Matthieu, et notamment dans le chapitre 2, où nous allons suivre les mages. Vous avez entendu parler des mages? Peut-être que quelques-uns ici, indépendamment de toute tradition, ont quand même une crèche à la maison. Il y en a qui respectent le timing, alors sur un calendrier, au début, il y a juste la crèche, les animaux, et puis, je ne sais pas trop quand, je ne suis pas un spécialiste de la crèche, mais on fait arriver Joseph et Marie. On prépare la petite mangeoire, il y a le bœuf, l'âne gris, lequel est à droite, lequel est à gauche, des spécialistes. Et puis on fait intervenir les personnages. Et je voudrais m'arrêter sur la découverte de certains de ces personnages-là, ce sont les mages. Nous ne pourrons pas parcourir toute la Bible ce matin, c'est impensable, impossible. Nous n'en comprendrons pas tous les tenants et aboutissants, mais si nous cheminons avec les mages et que, en quelques minutes, nous comprenons ce qu'ils ont compris, nous allons passer un extraordinaire Noël. Mais d'abord, avant de faire notre lecture, on va avoir besoin de démêler un peu le vrai du faux concernant les mages. Parce que vous remarquez qu'une histoire, même si elle est vraie, lorsqu'elle est racontée depuis longtemps, il y a des choses qui se rajoutent autour. Il y a des choses qui se modifient. Et les mages, la Bible nous dit des choses, mais au fil du temps, les mages, on a dit, ben, c'est pas que des mages, ce sont des rois mages. Pourquoi? Pour qui? On ne sait pas. Les mages, on sait qu'ils étaient là, mais tout d'un coup, on a su combien ils étaient. Ils étaient... Et puis au bout d'un moment, non seulement on s'est dit qu'ils étaient trois, mais on s'est dit, hey, on connaît leur prénom maintenant. Il y en a un qui s'appelle Gaspard, c'est Melchior, Balthazar. D'où ça vient? On ne sait pas. Et on a même fini par comprendre de quel pays ils venaient. Ah, lui il venait de là, l'autre il venait de là aussi. Et puis tout d'un coup on s'est dit qu'ils étaient, ils aimaient la frangipane, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils aimaient la frangipane, ils aimaient surtout quand on la calait entre deux couches de pâte feuilletée. Et puis comme ils étaient trois mages, mais qu'ils savaient pas, ils voulaient tous commander, c'était un peu des rois mages, Melchior, Balthazar, tout le monde voulait commander, ils ont dit, ben non, c'est pas compliqué, on va mettre un petit caillou dans la frangipane, et celui qui croque dedans, ben, il aura une dent de moins, mais il commandera pendant un an. C'est lui qui aura la couronne pendant un an, puis l'année d'après, hop, on refait une galette à la frangipane. Alors, à un moment, on s'aperçoit que si on va sur ce chemin-là, on peut finir très, très, très loin de l'histoire d'origine. Et malheureusement, ce n'est pas vrai seulement pour l'histoire des mages, c'est vrai pour l'histoire de Jésus-Christ. C'est vrai pour l'histoire de la vie. On part avec des vérités, puis on les tricote, on rajoute un fil. T'aimes quoi, toi, comme couleur? Qu'est-ce qu'on fait? Puis on change en cours de route. Et à la fin, la fresque qui devait dépeindre la gloire de Dieu, l'amour de Dieu pour une humanité qui avait tellement besoin de lui, la fresque qui devait être précise et fidèle à la réalité, devient illisible. Puis on dit, oh, c'est récent ça, c'est de l'art abstrait, ça ne veut plus rien dire, on ne voit plus rien. Alors on va refonder les choses sur la vérité, vous voulez? On va revenir à la vérité, on va cheminer avec les mages quelques instants et faire quelques magnifiques découvertes. Lisons dans Matthieu chapitre 2, à partir du premier verset. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ, le Messie, devait naître. Ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. L'histoire commence avec des mages qui viennent de loin. Et je voudrais dire en premier lieu que ces gens-là, ces mages-là, sont hors cadre. Ils ne sont pas dans la bonne religion, ils ne sont pas dans la bonne descendance. Ils n'ont pas grandi dans le bon contexte pour être des gens à qui Dieu va parler et se révéler. Il y a des endroits où, si vous naissez là, c'est l'endroit parfait. Ben, eux, ils sont nés à côté, en dehors. Ils ne sont pas dans le cadre. La promesse du Messie, elle est pour les descendants d'Abraham. Mais aussi haut que les mages puissent remonter dans leur généalogie, il n'y a aucun Abraham. Ils n'appartiennent ni de près ni de loin à la descendance de ceux qui sont héritiers de la promesse de la venue d'un sauveur. La promesse, dans un deuxième sens, elle est adressée à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ben, eux, ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que les commandements de Dieu, entre guillemets, ils ne les connaissent même pas. Ils ne savent même pas trop qui est Dieu. Ils savent juste, ils sentent juste qu'ils en ont besoin. Les mages, ce n'est pas un mot qu'on utilise. Hein. Connaissez-vous un mage? Est-ce que quelqu'un connaît un mage dans son entourage? Personne, hein? Qu'est-ce que c'est ça, un mage? Les mages, le terme n'est même pas hébreu à l'origine. C'est un terme qui, pour les Hébreux, était déjà étranger. Et c'est un nom d'origine étrangère donné par les Babyloniens, les Chaldéens, les Mèdes, les Perses et d'autres peuples aux hommes sages, aux enseignants. C'est vraiment une catégorie assez vague. Aux hommes sages, aux enseignants, aux prêtres, aux médecins, aux astrologues, aux voyants, aux interprètes de rêves, aux augures, aux devins, etc. Et c'est certain que ces gens-là, appartenant à cette catégorie de personnes, ont fait des choses en complète opposition avec la sainteté, l'amour et la justice du Dieu dont ils rêvent pourtant de s'approcher. C'est certain qu'ils ont fait des choses qu'il n'aurait pas fallu faire s'ils voulaient vraiment venir vers Dieu. La Bible, dans Deutéronome 18:10, nous laisse entendre la volonté du Seigneur qui dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » Pourquoi Dieu dit-il ça? Parce que ça se faisait. Il y a des horreurs qui se faisaient dans ces époques-là, dans ces contrées-là, au nom d'un culte religieux. Et Dieu dit « Non, je suis contre ça. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu pour essayer d'obtenir la bénédiction d'un dieu ou d'un autre. Personne qui exerce le métier de devin. » Ah, ça c'est les mages. Personne qui exerce le métier d'astrologue. Mais ça aussi c'est les mages. Personne qui soit ni augure, ni magicien, ni enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits des morts ou disent la bonne aventure. Alors là, ils sont hors cadre. Ils sont hors cadre et en ça, ils nous ressemblent. Parce que nous aussi, nous sommes hors cadre devant Dieu. Avec ce qui s'est passé, avec ce qui est passé dans nos pensées, avec ce qui est sorti de nos bouches, avec ce qui est entré dans nos yeux ou passé entre nos mains, nous sommes disqualifiés pour prétendre un jour pouvoir entrer comme ça légitimement dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas dans les cadres. Mais ça ne s'arrête pas là, l'histoire des mages ne raconte pas l'histoire de quelques personnes qui ont fait une tentative et qui, s'apercevant qu'ils étaient ou qu'elles étaient hors cadre, ont laissé tomber. Il y a un cheminement. Et ceux qui ne sont pas dans les cadres finissent quand même dans la proximité la plus intime avec le Sauveur. Alors, même si vous ne vous sentez pas dans les cadres, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt pour vous décourager. Ils sont hors cadre, mais ils cherchent Dieu. Ils ne méritent pas, mais ils croient que même s'ils ne méritent pas, il y a quand même une chance. Ils ne savent pas tout sur Dieu, c'est tellement approximatif leur façon d'être et de s'approcher de Dieu. Mais même s'ils ne savent pas tout sur Dieu, ils croient quand même qu'il serait possible, imaginable, que ce Dieu qu'ils ne connaissent pas et devant qui ils ne méritent rien, leur fasse la grâce quand même de leur accorder une bénédiction. Et ils ne cherchent pas à mériter, à se transformer. Ils viennent devant Dieu, je dirais, en l'état. Ça veut dire quelque chose, en l'état, n'est-ce pas? Tel quel. Et c'est comme ça qu'ils cherchent Dieu. Ils ne savent pas comment faire et avec le peu qu'ils savent, ils se disent « Mais si Dieu est au ciel et s'il nous envoie un signe, certainement que le signe va venir du ciel. » C'est assez basique comme raisonnement. Mais eux, avec le peu qu'ils en savent, ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre pour chercher Dieu. Tout comme au milieu de nous, il y a certainement des personnes qui essayent de faire des choses pour attirer l'attention de Dieu ou pour plaire à Dieu, enfin quelque chose. C'est extrêmement vague, c'est extrêmement approximatif, mais vous le faites parce qu'au fond, vous ne savez pas comment faire, mais vous voulez quand même trouver Dieu. Alors eux, ils pensent que ça va venir du ciel, alors ils disent, ben, à partir de ce soir, c'est pas compliqué, Balthazar, Melchior, quels que soient vos prénoms, on va regarder dans le ciel, puis on va se relayer. Toutes les nuits, on va regarder le ciel, jusqu'à ce que le Seigneur, le Dieu du ciel, nous envoie un signe. Et il regarde, il se fatigue, il persévère. Et un jour, Dieu honore leur démarche. À ceux qui sont hors cadre, à ceux qui ne savent pas tout, à ceux qui ne méritent rien, Dieu vient se révéler en allumant dans le ciel une étoile. Parce que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous soyons parfaits. Nous aimerions tous être parfaits pour Dieu, pas vrai ? Mais ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Ce qu'il attend de nous, c'est plus simple. Il sait ce que nous sommes. Il n'attend pas la perfection. Il sait que nous sommes faits de deux choses, pour faire simple. Un esprit très bien disposé, puis une chair très très faible. Ce qui fait que les bonnes intentions arrivent rarement à devenir des réalités tangibles. Et la Bible ne dit pas que ceux qui voudraient s'approcher de Dieu doivent être parfaits. Elle dit seulement qu'il faut qu'il croie en lui et qu'il croie qu'il aime récompenser, qu'il est le rémunérateur de ceux qui prennent la peine de le chercher. Et les mages, ils ne savent pas comment faire, mais ils croient que Dieu va vouloir leur parler même s'ils sont hors cadre. Et ils croient que Dieu va se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Alors Dieu se met à parler le langage des mages. C'est incroyable parce que c'est un langage que Dieu condamne. Il dit, tu consulteras pas les astrologues, ceux qui essayent de lire l'avenir ou les choses comme ça dans les étoiles, tu ne les consulteras pas, tu me chercheras moi. Et alors que Dieu n'est pas d'accord avec ça, mais qu'il comprend que ces hommes ne savent faire que ça, regarder les étoiles, il leur envoie une étoile. Dieu se met à parler leur langage. Dieu se met à leur niveau, comme il s'est mis à notre niveau à tous, lorsqu'il naissait dans une crèche à Noël. Une étoile, a priori c'est excessif quand même, allumer une étoile pour trois personnes, c'est incroyable. Mais pensez-vous, si Dieu s'est fait homme pour venir vers nous, il n'est plus à sa prêt. Si par amour Dieu s'est fait homme et a côtoyé notre misère et a porté nos douleurs, il n'est plus à sa prêt d'allumer une étoile. N'enfermons pas Dieu dans ce que nous pensons être possible ou impossible, judicieux ou pas, de sa part. Dieu est plus grand que tous les cadres dans lesquels nous voudrions l'enfermer. Heureusement que Dieu fait des choses que nous n'avons jamais imaginées. Dieu nous surprend. Il est plus amour que nous ne pouvons l'imaginer. Il est plus puissant que nous ne pouvons le penser. Plus sage, plus proche, tellement plus. C'était exactement ce qu'il fallait faire pour les mages, allumer une étoile. En l'an zéro, pour trois mages, Dieu a allumé une étoile. Et en 2018, Dieu veut encore allumer des étoiles. Ce n'est pas une étoile que moi, je vais savoir reconnaître, parce que peut-être qu'à moi, ça ne me parle pas, mais Dieu, dans votre vie à vous, dans votre quotidien, dans votre environnement, est en train, en 2018, avant que nous basculions vers 2019, en train d'allumer des étoiles pour attirer votre attention, pour vous montrer qu'il s'intéresse à vous aussi, quelque chose d'extraordinaire à quoi vous ne vous attendez pas. Dieu est prêt à le faire pour vous aussi. Pour simplement vous guider au sauveur de votre âme. Dieu visite encore des personnes qui s'estiment hors cadre. Si Dieu estime qu'à un moment, finalement, nous ne sommes pas hors cadre, ne nous excluons pas de la bénédiction de Dieu. Il y a un homme, un jour, ça se passe sur un autre continent, aux États-Unis. Un homme vivait vraiment à la limite de la pauvreté, d'autant plus qu'il avait un enfant qui était gravement malade et sa maladie le condamnait à une mort prématurée. Et il vivait avec son enfant et puis au début il s'était battu pendant un mois, deux mois, six mois, un an. Et puis la pression, la douleur, le désespoir ont fini par s'amonceler tellement lourdement sur ses épaules qu'il s'est littéralement écroulé. Et il a sombré dans une sorte de dépression et s'est laissé aller complètement. Le foyer a éclaté, son épouse est partie, vivait avec quelques enfants et notamment celui qui était malade. Puis ça ressemblait à, de moins en moins à une maison. Plus rien n'était rangé, les choses n'étaient plus faites. Il y avait un désespoir qui s'était installé dans la maison, puis il se sentait tellement misérable, abandonné par toutes les formes de services publics qui peuvent exister, les maigres formes de services publics qui peuvent exister aux États-Unis. Et il vivait dans sa journée, commençait à pencher vers l'alcoolisme et tout ça. Et un jour, le téléphone sonne. Le téléphone sonne et puis l'homme décroche. De l'autre côté, on lui dit « Bonjour monsieur, c'est un tel, je vous appelle, c'est le cabinet du président des États-Unis, je vous appelle parce que le président est en route, il se rend chez vous. » Et l'autre entend ça et dans l'abattement de son âme, dans la misère à laquelle il est habitué, l'abandon qu'il vit depuis des années dans son combat, n'y croit pas du tout. Et puis, après avoir répondu comme on répondrait à quelqu'un à qui on ne prête aucun crédit, il raccroche le téléphone. Et puis il retourne dans son marasme. Comment ça, le président, pour moi, le président viendrait ici, regarde ma rue, regarde ma maison, regarde ma situation. Personne ne s'intéresse à moi. Et finalement, quelques dizaines de minutes passent, une heure, deux heures, et puis des voitures anormalement luxueuses commencent à rentrer dans le quartier. Et puis il y a des drapeaux au-dessus des roues avant. Et là, l'homme comprend que il a été, c'est vrai, c'était pas un canular, c'est vrai, c'est le président qui est en train de venir chez lui. Et il est pas propre du tout, sa maison est hors d'état. Il ne pensait tellement pas être dans le cadre de ceux qui peuvent prétendre à une visite du président qu'il n'avait rien préparé. Il n'y a pas cru. Et lorsque Dieu nous parle au travers de la Bible, il nous dit bien des choses, mais une des choses qu'il nous dit, c'est arrêtez de vous exclure du cercle de ce que Dieu peut bénir. Il n'y a aucune raison valable. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, après être né dans une crèche, a grandi. Et sur la croix, il a porté toutes nos fautes, toutes nos maladies, nos incapacités, nos défaillances, nos torts, nos péchés, notre culpabilité. Il a tout porté. Et en Jésus, nous sommes tous devenus potentiellement bénissables. Nous étions hors cadre, vous étiez hors cadre, moi aussi. Mais nous sommes rentrés dans le cadre de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. La deuxième chose, il y en aura juste trois que je voudrais mentionner avec vous. La deuxième chose que je voudrais mentionner au sujet de ces mages, c'est que dans leur cheminement, on voit qu'ils vont avoir à faire face à des déceptions, des choses qui ne vont pas se passer dans leur recherche du Sauveur, exactement comme ils auraient pensé que ça allait se passer. Ils pensaient que ça allait se passer, ça allait être une histoire en un acte, en un épisode. Mais il y a des rebondissements auxquels ils ne s'attendaient pas. Mais ils vont savoir surmonter les déceptions dans la foi. Tout commence dans leur histoire par une initiative. On va regarder si Dieu veut nous parler, il va nous parler par le ciel, puisque c'est le Dieu du ciel. Effectivement, Dieu leur parle. Ils voient l'étoile, ils disent « Le Sauveur est né ». Et c'est une étoile qui nous indique que c'est au pays des Juifs, en Israël, que ça se passe. Et l'initiative suivante, c'est qu'ils font leur bagage et ils partent. Plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines de voyage. Mais là, il y a une initiative, le Sauveur, le roi des Juifs est né. Ils font un raccourci dans leur esprit. La capitale d'Israël, la capitale diplomatique, politique, économique, c'est Jérusalem. Et sans réfléchir un seul instant, comme si c'était une évidence, ils se rendent à Jérusalem. C'est là qu'on trouve les rois. Et c'est là qu'ils font face à leur première déception. Ils entrent dans le palais d'Hérode. Et là où ils pensent trouver un sauveur plein de grâce, ils trouvent un meurtrier plein de haine. C'est ce qu'était Hérode. On disait de lui, c'est... Comment il s'appelle cet historien-là ? Macrobe. Macrobe disait de lui que cet homme-là était tellement violent qu'on disait qu'il valait mieux être son cochon que son fils. Alors en français ça rend rien, ça se ressemble pas cochon et fils. Mais dans la langue originale c'est un jeu de mots, deux mots très très proches. Mais si tu dois être un des deux, pourvu que tu sois plutôt son cochon dans la ferme de quelqu'un que son fils. Parce que Hérode était tellement ambitieux, tellement attaché au pouvoir qu'il avait fait tuer son fils pour être sûr qu'il ne lui prenne pas la couronne un jour. Alors voyez la différence entre le sauveur que les mages cherchaient et puis le régent sanguinaire qu'ils avaient en face de lui. C'est complètement différent. Et là, c'est une grande déception. Et Hérode est là et dans son cœur, il veut tuer le sauveur que les mages cherchent. Il veut tuer la recherche. Il veut faire échouer le rêve qui est dans le cœur des mages. Et lorsque vous êtes en recherche de Dieu sur les chemins de cette terre,
dans cette région, mais sur les sentiers de l'Internet peut-être, sur les carrefours des relations familiales ou des rencontres au travail, et que vous commencez à parler de ce que vous cherchez. Je suis venu ici, toc toc toc, je suis venu ici, je cherche le roi des Juifs. Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce que quelqu'un sait où est le bonheur? Est-ce que quelqu'un sait où on peut trouver le pardon? Et là, vous avez des collègues qui sont en face de vous, et au lieu de trouver une attention bienfaisante, une bonne disposition, vous avez des gens en face de vous qui veulent littéralement tuer vos rêves de trouver Dieu, qui vont essayer de vous décourager, qui vont essayer de vous désorienter, qui vont essayer de vous manipuler, parce que eux, le rêve que vous poursuivez, ils veulent le tuer. Eux, le Dieu que vous voulez trouver et adorer et à qui vous voulez donner votre vie, ils veulent le tuer, ils veulent le faire disparaître, ils le tiennent pour responsable de bien des misères, et cela peut occasionner des heurts et des déceptions. Alors que vont faire les mages? Vont-ils pleurer? Pleurer de déception? Vont-ils se mettre en colère à cause des moyens et du temps qu'ils ont investis dans leur recherche du Messie? Vont-ils rentrer chez eux en disant « On m'y reprendra plus jamais, moi, la religion, c'est fini !» Aucune de ces options-là ne paraîtra être la bonne pour les mages. Vous aussi, si vous cherchez Dieu, et combien ça se comprendrait que, étant dans un lieu comme celui-ci ce matin, vous cherchiez Dieu. Si vous cherchez Dieu, vous trouverez vous aussi, tôt ou tard, sur votre route des gens qui s'opposeront à votre recherche. Mais si au lieu de pleurer, d'abandonner, de vous mettre en colère ou de vous laisser emporter par un sentiment de honte parce que vous y avez vraiment cru, vous persévérez dans la foi, Dieu se laissera trouver par vous, car il a promis qu'il se laisserait trouver par ceux qui le cherchent. Alors, ils vont vivre un moment de déception, mais très vite un encouragement, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils n'ont pas encore repris leurs esprits, mais ils poussent la porte du palais d'Hérode. Ils arrivent dehors, et alors qu'ils sont rentrés peut-être deux jours, ils ont été reçus suivant les protocoles du milieu. Là, ils poussent la porte, ils sortent, c'est la nuit, et l'étoile qu'ils ont vue en Orient se met, alors que ce n'était pas le cas jusque-là, elle se met à bouger et à les conduire sur le chemin. Et alors qu'ils sont déçus de la conduite des hommes, Dieu est fidèle et Dieu continue à les mener jusqu'à ce qu'ils arrivent devant le Messie, devant le Sauveur. Les mages ne vont pas se contenter d'analyser les choses suivant un esprit défaitiste. Ils ne vont pas dire, si le Sauveur n'est pas là, c'est qu'il n'existe pas. Nous faisons souvent ce genre de rapport, hein? Des conclusions un peu hâtives comme ça. Si le Sauveur n'est pas là, c'est qu'il n'existe pas. On entend, s'il y a de la misère dans le monde, c'est que Dieu n'existe pas. Non. Si le Sauveur n'est pas là, la logique de base, elle dirait que si le Sauveur n'est pas là, c'est juste qu'il est ailleurs. Basique, non? Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, c'est qu'il est ailleurs. Et si le malheur est dans le monde, si la souffrance est dans le monde, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, ça veut dire que Dieu n'est pas dans le monde. Et c'est vrai. Depuis combien d'années et de siècles le monde a rejeté Dieu? Regardez rien que toutes ces années, ces textes de loi, ces positions qui ont été prises partout pour bannir de toute forme de texte officiel, de toute vie publique, Dieu. Surtout pas Dieu. Quelque temps en arrière, des gens se sont offusqués parce que des gens qu'on appelle les Gédéons, nous, distribuaient des petits évangiles comme ça, pour que les jeunes, qui n'ont pas beaucoup de culture biblique aujourd'hui, puissent découvrir, en savoir au moins le minimum sur l'histoire du Sauveur. Et il y a des gens qui se sont offusqués, qui ont dit « c'est intolérable, jamais la Bible !» Et puis je me souviens, c'était une information que le CNEF nous proposait dans un compte-rendu d'actualité chrétienne. Et je me souviens que derrière les informations, il y avait des postes. Et puis sur les postes, il y a quelqu'un qui disait « Oh, c'est pas vrai, quand même, ils ont touché une Bible, vite, une petite dose de jeux vidéo ultra-violents, vite, quelques doses de pornographie, vite, un petit joint et un peu de drogue, et quelques jurons pour les laver de toute cette horreur biblique qu'ils ont pu avoir entre les mains. » Notre monde est comme ça. Ça, c'est une manière de dire « Mais réveillez-vous, les gens. Vous trempez dans des choses ignobles, et quand quelqu'un touche une Bible, vous criez au scandale. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. » Ils vivent des déceptions, mais Dieu les encourage. L'étoile les conduit et ils suivent l'étoile. Pas après pas, ils se rapprochent de là où est le Sauveur qu'ils cherchent. Et s'il n'est pas là, c'est qu'il est ailleurs. Ok. C'est qu'il doit y avoir un palais qu'on ne connaît pas. C'est un peu comme il y a le palais de l'Élysée. Hop, on sort de l'Élysée, il n'est pas là. Il y a une étoile. Ah ben c'est peut-être juste à Matignon ou à un autre palais ou à Versailles. Et ils suivent l'étoile. Et à un moment, alors qu'il y a beaucoup d'attentes dans leur cœur, où est-ce que l'étoile va nous mener? On est en train de vivre un moment glorieux. Et l'étoile s'arrête au-dessus. Petite maison de rien du tout. Peut-être l'étable. Non, on ne va pas s'arrêter sur est-ce qu'ils étaient encore dans la crèche ou est-ce qu'ils n'étaient plus. On va faire comme s'ils étaient dans la crèche encore. Et là, l'étoile s'arrête au-dessus. Et les étoiles, les mages qui viennent à peine de se relever d'une déception en revivent une autre. C'est que l'étoile, au lieu de les conduire dans un palais, les conduit vers une étable, une crèche. Un endroit si petit, si inapproprié pour la naissance du Sauveur. Encore une déception qui vient. Une déception qui pourrait être, et combien on la redoute cette déception-là, cette déception qui pourrait être la déception de trop. Cette fois-ci, je ne peux plus. Ils sont à quelques mètres du Sauveur. Ils vivent une déception. Vont-ils s'arrêter? Vont-ils persévérer? Grâce à Dieu, ils vont persévérer. Les étoiles, en 2018, vous ont peut-être fait espérer le meilleur. Et vous avez dit, oh, 2018, ok, on se comprend. On va tout dépasser 2018. Ça va être une année dans mon commerce, dans ma famille, dans mes relations, dans mon épanouissement personnel. En 2018, j'arrête ci, j'arrête ça. J'y crois en 2018, j'y crois. Et l'étoile qui vous guide en 2018 fait que vous arrivez maintenant 23 décembre, une semaine est finie 2018 et vous n'avez pas vécu ce que vous attendiez de 2018. Vous attendiez peut-être en tant que commerçant une première année bénéficiaire. Puis c'était plutôt pas mal parti, l'étoile bougeait, ça y est, ça bouge. Et puis, entre les travaux pour le tram, c'était déjà difficile. Puis, un jour, quelqu'un a pensé que les gilets jaunes, ça pouvait servir à beaucoup plus que signaler des travaux. Et là, la crise des gilets jaunes a bloqué partout. Puis vous finissez votre année, c'est la pire de toutes. C'est une année 2018 qui finit en déception. 2018, c'était l'année où enfin ma fille qui connaissait pas, qui s'est éloignée des choses de Dieu, a vécu des aventures qui l'ont blessée, puis nous ont blessés, nous les parents. Puis notre fille était sur le point de se ranger, de se marier avec quelqu'un de bien et tout. Puis là où on devait vivre le mariage et l'apaisement de tout, simplement quelqu'un a joué avec son cœur puis l'a jeté. Comme une malpropre en plein milieu de l'année. Et puis, ce n'est pas du tout ce qui était prévu, mais c'est ce qui est arrivé quand même. En 2018, peut-être quelqu'un s'est rapproché d'un milieu religieux ou d'un autre, ou d'une idéologie, en disant « Mais ça a l'air de bouger par là. » Et vous avez pensé que quelque chose de bon allait venir, et vous avez vécu une déception. Comme cet enfant devenu grand que j'ai rencontré un jour. Il me dit « Moi, la religion, il ne faut plus m'en parler. » Son histoire à lui, c'est que quand il était enfant, il fréquentait un milieu religieux. Peu importe. Et dans ce milieu religieux-là, on finissait par se retrouver dans des locaux, des bâtiments, quoi, des édifices. Puis il y avait des endroits où les enfants pouvaient aller, il y avait des endroits où les enfants ne pouvaient pas ou ne devaient pas aller. Et pour être sûr que les enfants n'allaient pas à un certain endroit, des adultes avaient dit, ben, c'est pas compliqué, n'allez pas là les enfants, c'est l'escalier de l'enfer. Parce que les enfants croient tout, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'on leur dit n'importe quoi en tout cas. Et cet enfant-là, il était à la fois terrifié parce que ah bon, c'est là, juste dans là. Et puis, à un moment, il a dit, mais je veux voir comment c'est. Parce qu'il n'y a rien de tel pour un enfant que de lui dire faut pas, pour qu'il fasse. Alors, à un moment, avec les trois plus aguerris de ses copains, ils ont dit, venez, on va ouvrir la porte de l'enfer. Ils sont allés. Hop, ils prennent la clenche comme ça, ils ouvrent la porte. Pas de chaleur, pas de feu, pas de lumière, personne qui crie. Des balais, et puis des affaires auxquelles les grands ne voulaient pas que personne touche. Et là, cet enfant-là, devenu grand, je l'ai croisé, il avait 50 ans, à peu près. Cet enfant-là m'explique que ce jour-là, toute la confiance qu'il avait dans ceux qui parlaient de Dieu s'est effondrée. Vu du côté des adultes, c'était pas grave. C'était rien, voyons. Mais vu de son côté à lui, c'était une déception quasiment absolue. Et des déceptions, même dans des milieux bien pensants, même dans des milieux dits religieux, on peut en vivre. Mais il ne faut pas que vos déceptions, si vous en avez vécu, vous empêchent de continuer à avancer vers Dieu. Attendez-vous de temps en temps à trouver des traces d'humanité chez les humains. Mais n'empêchez pas Dieu d'être divin pour autant. Les déceptions, on ne peut pas les empêcher, mais on peut les surmonter. Et les mages ont surmonté chacune des déceptions dans la foi. C'était impensable. Et puis finalement, en réfléchissant bien, plutôt que de dire « Ah, c'est impossible, regarde, l'étoile s'est arrêtée au-dessus d'une étable », c'était quand même un message fort. Parce que, réfléchissez les mages, c'est pas si décevant que ça quand même. Vous êtes en train de prendre conscience que le sauveur des hommes, le Dieu du ciel, n'est pas contre l'idée d'habiter dans une étable. Parce que franchement, la vérité, c'est que si vous et moi, on devait comparer nos cœurs à un édifice quel qu'il soit, qui comparerait son cœur au château de Versailles ici ? Allez-y, dites-le, c'est bien d'être bien dans sa peau, c'est bien de s'aimer soi-même. Mais non, non. Qui comparerait son cœur au palais de l'Élysée ou à je ne sais quel autre dehors, la Maison Blanche, allez ! Qui comparerait son cœur à une étable ? On se reconnaît beaucoup plus là. Et Dieu dit, moi, ça ne me fait pas peur de venir habiter dans une étable. Ça ne me fait pas peur, je peux faire le même travail à partir d'une étable qu'à partir d'un palais. Et si tu me laisses une place dans l'étable de ton cœur, je suis partant pour y habiter. Je suis partant pour y vivre. Je suis partant pour y être et recevoir même des gens hors cadre et leur faire commencer une nouvelle vie. La troisième chose, et qui va être plus succincte, c'est que les trois mages, lorsqu'ils s'approchent de Jésus, reconnaissent la pleine dimension de l'enfant qui est en face d'eux. Et ça, c'est pas rien. Qui est Jésus pour vous? Si vous fallait choisir trois mots, par exemple, pour définir Jésus. Petit. Il y en a, ils diraient, ah ben, Jésus, petit Jésus. Ou d'autres. Mais peut-être que parmi ces trois mots, il y en a deux, peut-être même trois, que vous ne trouveriez pas du tout dans la Bible. Parce que ça ne décrit pas, c'est pas juste, c'est pas fiable, c'est pas conforme, fidèle à ce que le Seigneur Jésus est. Et eux, ils vont s'approcher d'un petit enfant, mais derrière le petit enfant, ils vont discerner beaucoup plus que ça. Le personnage de Jésus est perçu par beaucoup de personnes comme un personnage religieux parmi beaucoup, mais lui, il est un peu moins violent quand même. Hein, oui, plein de douceur et de compassion, dites-le même. Lui, c'est quand même son enseignement, son message est quand même plus constructif, plus favorable à la paix du monde que d'autres enseignements. Mais si nous ne reconnaissons en Jésus qu'un maître à penser ou une figure de la vie religieuse, ça ne va pas changer grand-chose. Certains n'ont pas su reconnaître l'enfant à sa juste dimension. C'est pourquoi le prophète Ésaïe va écrire dans le chapitre 53 de son livre « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu loin de l'Éternel ? Il s'est élevé comme une faible plante, un petit bébé qui naît dans une crèche. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat particulier pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous impressionner ou pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ils auraient pu ne pas le reconnaître parce que beaucoup d'autres ne l'ont pas reconnu. Mais les offrandes qu'ils ont faites au petit enfant Jésus à ce moment-là parlent de la dimension qu'ils lui reconnaissaient. Le premier don qui lui a été fait, il y a eu trois dons. C'est pour ça qu'on a estimé qu'il y avait trois personnes, trois mages. Mais rien ne le dit. Le premier don, la première offrande, c'est une offrande d'or. Et ça, ce n'est pas pour acheter une place au ciel ou pour préparer le financement des études du jeune enfant. Une offrande comme ça, il y a une forte symbolique, c'est une symbolique de royauté. Et les mages, en apportant leur or, disent « cet enfant est un roi ». Ce n'est pas un bébé parmi les autres. Il est dans une étable, mais oubliant tout cela, cet enfant est un roi et c'est une offrande royale que je lui fais. Le deuxième s'approche et il offre de l'encens. Toutes les mamans ici, j'espère que vous avez d'abord bien vécu votre accouchement. Premier point. Deuxième, j'espère que vous avez eu des visites agréables pendant que vous étiez à la maternité. Mais qui s'est vu offrir de l'encens à la maternité? Hé, t'es là, il est né le bébé. Allez, ça ne te dérange pas, personne n'a fait ça. Même aujourd'hui, alors que c'est assez en vogue, c'est assimilé à plein de choses, on ne fait pas ça. À cette époque-là, encore moins. On ne brûlait de l'encens que dans les temples. Parce que l'encens était le symbole de quelque chose d'agréable qu'on essayait de faire monter de la terre vers le ciel de Dieu. Ce n'est qu'à Dieu qu'on offrait de l'encens. Et là, il y a un des mages qui s'approche, qui déballe son offrande, et il y a de l'encens, quelque chose qu'on n'offre qu'à Dieu. Cet enfant-là n'est pas un bébé parmi les autres, cet enfant-là, c'est Dieu parmi les hommes. Ils ont su le reconnaître dans un enfant. Et le troisième vient avec de la myrrhe. La myrrhe intervient dans plusieurs choses, mais globalement, si on veut être simple, la myrrhe, ça intervient comme remède médicinal. Puis, c'est utilisé aussi quand on ne peut plus soigner quelqu'un, que la mort frappe parce que la guérison n'a pas pu opérer. On va embaumer la personne, ça va entrer en, la myrrhe va entrer en ligne de compte dans les éléments de composition de ces produits pour l'embaumement. Et c'est pas pour soigner le bébé que la myrrhe est offerte. Le bébé est en pleine santé. Mais déjà, ce mage-là, je sais pas d'où il, comment il l'a compris, mais c'est extraordinaire. Annonce dans son offrande que ce bébé plein de vie, qui entre dans la vie, devra en sortir d'une manière particulière. Il devra mourir, il sera préparé. Les femmes vont venir comme pour le préparer avec des aromates, de la myrrhe et d'autres choses. Déjà là, à la crèche, les mages reconnaissaient celui qui devait mourir pour que l'humanité vive. Quelle merveille ! Ce chemin, en conclusion, il faut que nous puissions le faire en ce Noël 2018. Nous sommes passés à côté de la crèche 1000 fois. Faut rentrer, faut faire connaissance avec le sauveur de nos âmes. Il faut le trouver, celui qui peut tout changer. Dieu n'est pas venu pour les mages seulement, pour les bergers seulement, mais pour tous ceux qui auraient besoin de lui et qui tourneraient vers lui le même genre de regard que celui que les mages avaient tourné vers le ciel à cette époque-là. Un regard de « je suis hors cadre, ok, je ne suis pas dans les rangs, je ne suis pas dans la bonne généalogie, je n'ai pas été élevé dans le bon contexte, mais je crois que Dieu pourrait quand même me faire un signe, pourrait quand même se laisser trouver par moi. » Dieu est venu pour nous tous. Croyez à son amour. Croyez à son amour qui lui permet de vous aimer même au-delà des cadres. Croyez en son amour, croyez encore et toujours, même lorsque vous vivez des déceptions, continuez à chercher parce que Dieu vous conduira vers la trouvaille. Il veut que vous trouviez. Et comme les mages, ne pensez pas seulement que Jésus, la naissance de Jésus vous donne l'occasion d'avoir une fête assez lumineuse et joyeuse au cœur d'un hiver sombre et pluvieux, mais reconnaissez en Jésus le roi des rois, le fils de Dieu et celui qui devait mourir et ressusciter pour vous, afin que vous ayez la vie. Amen.